Radio Foot International.
Igor Strauss.
Bonjour, bienvenue. Vous le savez, Annie Gasnier et David Finzel, les titulaires indiscutables de cette émission, sont en vacances. Du coup, Radio Foot International prend ses quartiers d'été. Mais rassurez-vous, il ne sera question que de foot. Et oui, même quand il n'y a plus de foot à la télé, nous, on en parle encore, mais différemment. Pendant 3 semaines, avec nos invités, nos consultants, nous allons revenir sur tous ces événements qui ont fait l'histoire du foot. Car au-delà du jeu, au-delà du score, le foot nous en dit beaucoup sur nos sociétés. Et pour ce premier numéro de Radio Foot version estivale, nous allons nous intéresser aux joueurs africains dans le championnat de France du temps des colonies à nos jours, ou quand la petite histoire rencontre la grande.
Bien, je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée.
Si, nous sommes à l'antenne et nous recevons un historien, spécialiste de l'histoire du football, maître de conférences à l'université de Franche-Comté et auteur d'un ouvrage de référence intitulé « Histoire du football » aux éditions Perrin. Bonjour Paul Dicci.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous n'êtes pas à mes côtés, mais en duplex de Besançon, et j'en profite pour remercier les équipes techniques de France Bleu Besançon. Paul Dicci, quel est votre plus beau souvenir de foot ?
Alors c'est l'un des premiers, c'est d'avoir assisté à l'âge de 12 ans à une finale de Coupe de France entre Saint-Étienne et Reims, et c'était à l'époque des grands verts, donc c'était en 1977, je les ai vus en chair et en os.
Ah, un beau souvenir effectivement. Eux, ils sont bien à mes côtés, ce sont nos deux consultants du jour, Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Igor et bonjour Paul.
Et bonjour Franck.
Et J. Rémi Ngono, l'homme qui n'est jamais d'accord, mais alors jamais. Salut J. Ça va ?
Salut Igor, c'est surtout c'est l'homme qui réussit quand même à être d'accord avec moi sur mon nom.
Ah oui, on dit J. Il paraît, c'est comme ça. Messieurs, je suis content de vous retrouver. On peut y aller, vous êtes prêts ?
On est prêts.
Ouais.
Et ben c'est parti.
Bon, je vous laisse pas, bon esprit, hein, on met pas le pied, convivial, tranquille, c'est fair play, exactement.
J. on met pas le pied, hein, tranquille. Convivial. Il l'a dit, hein, Sébastien Bonnijol. C'est lui qu'on a entendu à l'instant. Avant de s'intéresser à notre sujet du jour, un point sur les dernières infos et on commence avec les transferts. On le sait déjà depuis quelques jours. Patrick Kluivert, l'ancien attaquant des Oranges, a signé au PSG et Vincent Labrune va quitter l'OM, Franck Simon.
Ouais, ben après sur les fonctions de Kluivert, de directeur technique des sports, je trouve que c'est encore un petit peu flou. C'est un peu une rupture, je trouve, hein, mais ils avaient besoin de quelqu'un à ce poste puisque depuis le départ des Leonardo et quelques saisons, il y avait plus de vraiment quelqu'un entre l'encadrement technique, si vous voulez, et puis la direction. Donc, ben, Kluivert arrive un peu dans ces fonctions-là. Et quant au départ de Labrune, qui est acté, hein, puisque c'est même lui qui l'a annoncé dans la presse marseillaise, c'est quelque chose qu'on attendait déjà depuis un sacré bout de temps, quoi. Mais bon, c'est dans la logique un petit peu de ce qu'on sait de l'actualité du club, de repreneur, de changement en fait à la tête de l'Olympique Marseille.
Il faut dire que ça n'allait plus cette saison à l'Olympique de Marseille. J. Rémi Ngono, qu'est-ce qu'il peut apporter Patrick Kluivert au PSG, à part son nom, son aura? Il a joué dans les plus grands clubs, que ce soit au Milan AC, au Barça. Qu'est-ce qu'il peut apporter au PSG?
Ce qu'il apporte justement sur les plateaux télé, c'est-à-dire que peut-être il va beaucoup plus se vendre qu'il ne pourrait apporter sur le plan footballistique. Moi, je crois que sa venue au PSG, c'était toujours dans le cadre de l'image, parce que je connais quand même l'arrivée à l'époque de la star Beckham. Ce n'était pas tellement pour le football, mais pour l'image. Mais depuis un certain temps,
vendre des maillots en Chine.
Ouais, depuis un certain temps, j'ai quand même vu qu'il était beaucoup présent sur les plateaux télé. Qu'est-ce qu'il va apporter concrètement? Je n'y vois pas, dans la mesure où, pour l'instant, on voit quand même que Emery a pris totalement les choses en main et que rien totalement n'est défini au niveau du PSG. On ne connaît pas le rôle du président, on ne connaît pas le rôle du directeur technique. À l'époque de Leonardo, il y avait encore quelque chose, mais entre-temps, on voit que on est dans le confusionnisme total. Mais maintenant, je constate quand même que le PSG a beaucoup à faire, parce que déjà, le PSG ne parvient pas à séduire aujourd'hui les joueurs. On ne voit pas des grands noms arriver au Paris Saint-Germain, contrairement à une certaine certaine époque. Donc aujourd'hui, Paris n'est plus si flamboyant que ça.
Mais c'est surtout le manque d'attrait du championnat de France, peut-être plus que le Paris Saint-Germain lui-même en tant que club.
Pas forcément. Le départ de Zlatan, c'est aussi une rupture un peu dans le projet de qatarien du Paris Saint-Germain. Rémi a raison, de toute façon, par rapport à ça. Et puis sur les contours même du poste de Kluivert, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'avait fait Leonardo. Leonardo, ça avait été un ancien joueur. Kluivert n'a jamais été un ancien du PSG. Puis Leonardo avait un carnet d'adresses, puisqu'il avait été aussi entraîneur de grands clubs, notamment en Italie, qui lui permettait de pouvoir recruter, de faire venir des gens au tout début du projet. Là, on voit mal Kluivert passer des coups de fil pour ça. En revanche, peut-être que ça peut influer. Mais c'est vrai, concrètement, on se dit que c'est pas forcément le PSG aussi fort, aussi flamboyant qu'il y a deux ans.
Alors on passe aux autres transferts avec N'Golo Kanté qui part à Chelsea.
N'Golo, il veut
qu'on dise le N, c'est vrai, vous avez raison sur la prononciation. N'Golo. Normalement on ne le dit pas, le N est muet ou les M, mais là il veut qu'on le dise. Donc N'Golo Kanté part à Chelsea. Juste une petite question, Paul Dicci, est-ce que vous êtes tombé sur le charme de ce joueur comme l'ensemble des Français pendant cet Euro?
Oui, tout à fait, même si le changement tactique finalement opéré a réduit son temps de jeu et a réduit son influence sur l'équipe, mais je trouve que c'est un joueur qui a une très très grande vision du jeu, qui est infatigable, qui semble heureux de porter le maillot bleu, donc il a vraiment toutes les cartes pour faire une longue carrière chez les Bleus, si finalement le schéma tactique lui permet de jouer devant la défense, ce qu'il fait, et lui permet d'être pleinement intégré dans cette équipe. Mais c'est vraiment un très beau joueur et une très belle découverte, et la preuve qu'on peut s'intégrer très vite dans une équipe, puisque finalement ça fait seulement quelques mois qu'il joue pour l'équipe de France.
Oui, allez-y Franck Simon.
Ouais, mais pour un peu pour son malheur et corroborer ce que disait Paul, c'est-à-dire que il est suspendu à l'issue du match contre l'Irlande et à l'issue de ça il perd sa place parce que
comme Adil Rami et puis Moussa Sissoko fait le job sans, et il reste.
Voilà, s'engouffre dans la brèche et puis il reste, mais c'est vrai qu'il a beaucoup apporté et puis je pense qu'il va encore prendre une autre dimension du côté des Blues de Londres.
Bon, en tout cas, il attend beaucoup d'Antonio Conte, le nouvel entraîneur de Chelsea. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe, J-Point ?
Je crois que Chelsea aujourd'hui souffre d'une maladie qui est quasiment incurable, à savoir d'abord un problème défensif. Parce que vous voyez, le premier match de la préparation de l'intersaison de Chelsea, eh bien, ils ont déjà perdu par 2-0 et on a vu des gros tunnels au niveau de la défense. Or, jusqu'à présent, Chelsea ne parvient pas à recruter sur le plan défensif. Maintenant, au milieu du terrain, je dis, il y aura quand même assez de monde puisqu'il y a Matic qui est là et il y a Fabregas qui n'est toujours pas parti.
Mais celui qui n'est pas vraiment défensif.
Et qui n'est pas très défensif. Alors, à une certaine période, il faut quand même qu'on se dise, toute la kyrielle de joueurs, le milieu de terrain de Chelsea est hyper fourni. Donc, à une certaine période, il faudrait qu'il fasse quand même beaucoup plus d'efforts pour qu'il s'intègre dans cette équipe de Chelsea qui, faut-il le dire, ne va pas jouer comme Leicester. Parce qu'il faut quand même se dire que Leicester est quand même champion d'Angleterre étant 19e au niveau de la possession. 19e. Ce qui signifie que c'est une équipe qui jouait beaucoup bas où N'Golo réussissait tout au moins à rester pratiquement un peu plus au niveau de sa défense. Mais là, le Chelsea de Conte est obligé à prendre des matchs à son compte. Va-t-il s'adapter ? Voilà la question.
Voilà la question. Et on va suivre tout ça, bien évidemment. Franck Simon voulait rajouter un petit mot rapidement parce qu'on a d'autres transferts.
J'aime bien cette analyse de Rémi. Et je pense que quand même, N'Golo peut apporter quelque chose. Pas parce que c'est un casseur de ligne. Donc, et je pense qu'il va bien s'entendre pour le coup avec Conte, dont on sait tout ce qu'il attend de ses joueurs. Au niveau de la discipline, notamment défensive. On l'a vu avec la Squadra Azzurra, la nationale italienne. Donc, je pense qu'il lui faudra quelques temps, comme à Leicester. Mais il connaît déjà le championnat anglais. Il a un petit peu les bases. Et puis, c'est un garçon qui est très ouvert. Vous voyez, il a un profil, je pense, de caméléon. Donc, je le vois bien s'adapter.
Très rapidement, après Samuel Umtiti, c'est Lucas Digne qui a signé au FC Barcelone, le grand Barça. Il arrive en tant que remplaçant. Est-ce qu'il aura un peu de temps de jeu, selon vous, Franck Simon ?
Bien sûr, mais comme Umtiti, il aura du temps de jeu, mais il devra se contenter de ce qu'on lui donnera. C'est son troisième championnat en l'espace de deux ans, puisque du PSG, il était parti à la Roma, il me semble, hein, Lucas Digne. Et voilà, donc un troisième championnat.
Il a été prêté l'année dernière à la Roma,
voilà, effectivement. Voilà, ils n'ont pas voulu lever l'option d'achat. parce que c'était extrêmement cher.
17 millions, c'est
si Nabil était là, il vous le répéterait. Mais pour le coup, c'est intéressant. C'est un garçon qui n'a pas eu totalement sa chance au Paris Saint-Germain. Au Barça, il aura un petit peu de temps de jeu. Ça sera à lui d'essayer de concurrencer les joueurs importants qui sont déjà là. Mais il y a tellement de compétitions à jouer, vous savez. À un moment donné,
il faudra que l'entraîneur fasse tourner, évidemment.
C'est toujours le cas au Barça, et ça se fait plutôt en bonne intelligence. Après, vous savez qu'il y a des joueurs dont il est difficile de se passer chez les Blaugrana.
Alors, j'aimerais qu'on ait...
Moi,
pardon. Allez, très rapidement, le temps passe très vite, J-Point.
Je trouve que c'est un choix clinquant, tout comme j'avais critiqué le choix d'Alexandre Song d'aller s'embourber dans le bourbier, justement, du Barça, qui, il faut déjà le dire, sur chaque plan, lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, le plan défensif, Mascherano, il avait posé une condition, à savoir qu'il voulait des assurances pour qu'il ne quitte pas le Barça. Il est sûr d'être titulaire. Et vous avez là, non seulement lui et Piqué qui forment déjà la charnière centrale, donc il faudrait absolument une blessure pour que quelqu'un soit là. Et vous regardez par exemple Jérémy Mathieu. Aujourd'hui, on ne sait pas là où il va atterrir. Est-ce qu'il a réussi? On a pris Vermaelen. Est-ce que Vermaelen a réussi à s'imposer au niveau du Barça? On empile des joueurs, des défenseurs, mais ils ne parviennent jamais à s'imposer. C'est pour ça que je dis que quand on va au Barça, vraiment,
il ne faut pas
toujours
pas.
Voilà.
Ça se refuse pas.
Ça peut se refuser parce que j'ai vu comment est-ce que les carrières, que ce soit de David Villa, que ce soit les carrières, par exemple, d'Alexis Sanchez, on lui a flanché. Celle d'Alexandre Song, totalement, est arrivée au point mort.
Là, vous parlez de votre confrère camerounais. Merci, messieurs. On reparlera demain de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas 5-1-1 avec un triplé d'Augusta et le doublé Mbappé. Malheureusement, le temps passe très vite. Et puis, évidemment, on a une petite pensée, une grosse pensée même pour Dembaba qui s'est blessé grièvement avec son club de Shanghai Shenhua. C'était lors du derby de Shanghai, justement.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Il a raison, Pascal Dupraz. Le plus important, c'est ce qu'on va voir maintenant avec notre invité, le professeur d'histoire contemporaine, Paul Ditchy. Paul Ditchy, aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de talents africains évoluant en France et dans les différents championnats du monde entier. Pourtant, tout n'a pas été si simple. En 1928, le général Young, commandant supérieur des troupes d'Afrique occidentale française, considérait que le foot était trop compliqué pour les indigènes, comme on les appelait alors. Et ça, c'est surprenant. Vous le rappelez dans votre livre, Paul Ditchy.
Oui, alors, on est évidemment en contexte colonial. Il faut rappeler que 3 ans après cette sinistre déclaration, eh bien, il l'écrit d'ailleurs, il y a l'exposition coloniale à Vincennes et vous avez des zoos humains où on reconstitue les indigènes dans leur milieu. Donc, évidemment, il rend compte de ce regard sur les Africains. En même temps, il rend compte aussi d'une autre préoccupation qui est celle de l'armée et de recruter des tirailleurs sénégalais qui ne sont pas tous sénégalais, mais qu'il faut renforcer musculairement. Alors, pour l'armée, la gymnastique apparaît quelque chose de plus utile. Et puis, il y a peut-être aussi une certaine méfiance à l'égard du sport, de jeux collectifs qui offre un petit peu plus de liberté à ceux qui le pratiquent. Mais fort heureusement, eh bien, tous les militaires n'ont pas eu cet avis-là. Et puis surtout, il y a une autre institution qui est l'Église et qui a eu évidemment une toute autre politique.
Notamment les missionnaires belges du Congo, pour qui le football était un très bon support éducatif.
Oui, alors il y a notamment quelqu'un qui est resté très célèbre au Congo, puisque l'un des stades de Kinshasa porte encore son nom, c'est Tata Raphaël, le père Raphaël de la Quétule, qui était un missionnaire flamand, un peu sévère, mais passionné de football, et qui a été vraiment le père du football au Congo, dans le sens où à la fois dans les écoles de Léopoldville, eh bien, on pratiquait le football, et puis on était bien obligé de le pratiquer à la récréation, sinon on risquait de recevoir un bon coup de godillot du père de la Quétule. Mais surtout, c'est lui qui a été à l'initiative de construction d'infrastructures à Léopoldville, et notamment le fameux stade du roi Baudouin, d'ailleurs, qui porte son nom aujourd'hui, et qui donc a à la fois permis le développement d'équipes formées de Congolais, d'une fédération locale et de l'éclosion de talents, puisque par exemple dès le début des années 50, vous avez Léon Mokouna qui lutte contre sa fédération pour être transféré au Sporting Lisbonne et qui est un des premiers joueurs congolais à faire carrière en Europe.
En tout cas, Paul Dicci, ses préjugés raciaux ont retardé la diffusion du foot dans les colonies. Au début, seuls les colons jouent au foot, mais très vite, le football gagne les cœurs et se répand. Comment ça se fait très concrètement ?
Alors déjà, il y a une différence évidemment entre l'Afrique du Nord et notamment l'Algérie et la Tunisie, où vous avez quand même des clubs locaux musulmans qui
naissent
très tôt, hein, très structurés, enfin qui aujourd'hui qui sont encore très structurés. Bon, il y a les Mouloudia Club à Alger, à Oran, il y a l'Espérance Sportive de Tunis, supportée par Habib Bourguiba, donc ça c'est en gros au début des années 1920, et eux vont acquérir une popularité importante parce qu'ils permettent justement de remporter des victoires symboliques sur le terrain du football contre les colons, contre les Européens, à tel point d'ailleurs qu'en Algérie, le gouverneur d'Algérie va obliger ses équipes à comporter un nombre 3-4 joueurs européens pour éviter justement que les confrontations apparaissent comme des confrontations de musulmans et européens. Donc il y a cette situation du Maghreb qui est très spécifique, où le football prend très tôt. En Afrique de l'Ouest, bon, il y a le problème évidemment du développement des villes, qui sont surtout des villes côtières. Mais il est clair que, en gros, dans les années 1930-40, le football commence à devenir un divertissement urbain, également pour les mêmes raisons, parce qu'il y a aussi des matchs qui commencent à être organisés dans les années 40 contre des équipes européennes, donc ça permet évidemment de se faire valoir. Et puis surtout, vous avez après-guerre, en 1946, la Coupe de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, alors là, qui va opposer notamment les grandes équipes créées par les religieux, les Jeanne d'Arc, par exemple, la Jeanne d'Arc de Dakar.
Des Jeanne d'Arc, vous l'expliquez, il y en a partout. Hein, justement, on parlait des missionnaires belges, mais les missionnaires français vont baptiser les termes Jeanne d'Arc. Il y en a à Bamako, oui, à Dakar, à Libreville.
Ce sont les équipes de patronage, hein, de patronage religieux. Et on reprend un peu, finalement, la même politique qu'en France, c'est-à-dire que pour attirer les gens devant l'autel, eh bien, on va leur promettre de jouer au football. Donc, il faut évidemment assister à la messe pour pouvoir jouer au football. Il faut, pour certains, se convertir. Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Hein, et jusque donc au Gabon, hein, la Jeanne d'Arc de Libreville, elle est créée par le frère de Monseigneur Lefebvre, hein, le futur évêque schismatique. Donc tous ces prêtres, ils sont vraiment à la fois passionné de football, et puis ils considèrent quand même que c'est la meilleure voie pour la conversion, hein, et le contrôle de leurs ouailles. Ce qui fait que ces équipes, elles vont grandir, elles vont former des clubs importants, et en gros, entre 46 et 58, la Coupe de l'AOF, c'est quelque chose qui passionne les Africains, en même temps qu'il les divise un petit peu.
Franck Simon, justement, Paul Dicci le disait, donc les premiers joueurs à jouer dans le championnat de France sont des Maghrébins. Quels sont ceux qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez ? Est-ce que vous avez des noms à nous donner ?
Je pense que tous les auditeurs se souviendront de quelqu'un comme Larbi Ben Barek,
le Marocain. Qui a marqué l'immédiat après-guerre.
Voilà, Marocain, mais qui a porté les couleurs de l'équipe de France avant-guerre, et puis même encore après, qui a une grande carrière, qui a joué à l'étranger, qui a joué en Espagne notamment. Mais je pense aussi à quelqu'un dont je crois que Paul avait parlé dans un de ses ouvrages, qui est Raoul Diagne. Bien sûr. qui est métis, hein, qui lui était issu d'une bonne famille, qui a porté le maillot de l'équipe de France dans les années, je crois que c'est dans les années 30. Donc voilà, ce sont des gens comme ça qui
1931.
Ont... 31,
c'est sa première. Oui, vous voulez rajouter un petit mot sur 1900, une précision?
Ah oui, il y a des précisions, parce que justement Raoul Diagne, c'est le fils de Blaise Diagne. Blaise Diagne est le tout premier noir sénégalais à être non seulement député à l'Assemblée nationale, mais aussi ministre
du gouvernement français.
Voilà. Donc c'était en 1934. Donc réellement, il n'avait jamais voulu que son fils vienne à jouer au football, parce que effectivement, il considérait le football, tout comme la religion, comme des instruments de domination ou de soumission. Donc pratiquement, il n'était jamais parti voir son propre fils dans un stade de football. Et lui, il va porter, parce qu'il est arrivé en France à l'âge de 18 mois, il va porter le maillot de l'équipe de France, bien évidemment, en passant par le Racing Club de France, puis le Racing Club de Paris. Il va même jouer la Coupe du Monde avec la France en 1938.
Et on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Messieurs, vous restez évidemment avec nous. On se retrouve juste après le journal. À tout de suite.
Je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Et par conséquent, je vous rends l'antenne à la maison de l'ORTF.
scène au moment où le match se déroule déjà. Je dois vous dire qu'ici, il y a une ambiance formidable, comme vous allez l'entendre. Nous ne savons pas exactement où en est la marque, puisque nous sommes très loin du panneau d'affichage et que le brouillard ne nous permet pas de le voir. C'est France-Angleterre que nous diffusons aujourd'hui. FC, Laurent, les Anglais sont partis avec la balle. C'est une action qui est une très belle action qui a démarré. Mais c'est un... Eh bien, l'arbitre siffle. C'est une touche. À moins que... Non, c'est bien... C'est la fin du match.
Radio Foot International.
Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Radio Foot International version estivale avec, vous l'avez reconnu, Coluche évidemment. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'histoire des joueurs africains dans le championnat de France des colonies à nos jours avec notre invité Paul Ditchy, professeur d'histoire contemporaine et auteur d'un ouvrage de référence Histoire du football aux éditions Perrin, et nos consultants du jour Franck Simon de France Football et J. Rébine Gonneau.
1970-1971 pour Saint-Etienne. Comment cela s'est passé du côté Keïta?
Enfin, moi, personnellement, je pense que j'ai fait une bonne saison puisque j'ai marqué 42 buts exactement.
Toutes mes félicitations. On espère vous voir beaucoup de saisons en France.
J'ai décidé à dédier ce ballon d'or au tout le peuple africain. Mais je crois que ce ballon d'or, ça va donner beaucoup de choses pour l'Afrique.
Vous avez beaucoup appris, petit, en jouant au foot, ou vous avez l'impression que c'était très inné chez vous?
Tous ceux qui m'ont côtoyé, ils m'ont dit que c'était vraiment inné. J'avais le dribble facile, j'avais une vitesse facile, j'avais le but facile.
Les pieds, de la tête, avec ou sans ballon, Abedi est un footballeur complet, exceptionnel.
En Europe, on est vraiment professionnel. En Afrique, vraiment, il n'est pas professionnalisé. Quoi.
Dans ma tête, je me suis déjà fixé qu'il fallait que je devienne un footballeur et plutôt un footballeur professionnel.
Du tourbillon de N'Djamena au FC Nantes, en passant par le tonnerre de Yaoundé, le chemin d'or de Japhet Ndoram.
C'est vrai que ça a été difficile, l'accueil n'était pas très très chaleureux. Encore qu'avec le temps, j'ai compris que Nantes était l'un des clubs le plus chaleureux.
Nous, au Cameroun, on avait déjà les échos de nos aînés. Par exemple, Joseph Yvegan Mayaki jouait déjà à Marseille. Il y avait Tokoto Jean-Pierre. Il y avait Abosso Loketa à Bordeaux et beaucoup d'autres. On voulait suivre les traces.
L'Africain qui est devenu français, il est devenu avec des raisons de l'être. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait. C'est tout simplement parce qu'il a rempli certaines conditions et notamment du fait que la France se soit permise il y a longtemps de coloniser certains pays africains.
C'était l'archive du jour de Guillaume Ploquin avec les voix de Salif Keïta, Georges Ouéa, Roger Mila, Abedi Pelé, Japhet Ndoram et Joseph-Antoine Bell. Que de bons joueurs. Paul Ditchy, quel est celui qui vous a le plus marqué parmi tous ces joueurs?
Alors, comme je suis quand même pas très vieux, hein, c'est peut-être Bell qui m'a le plus marqué parce que c'est un gardien de but très spectaculaire qui soignait son image. Quelqu'un aussi d'intelligent, d'ailleurs, son analyse est tout à fait intéressante. Il a peut-être pas fait la carrière qu'il aurait pu mériter. Bon, il a changé assez souvent de club, mais c'est quand même lui, me semble-t-il, qui m'a le plus marqué en tant que spectateur.
Nous accueillons un nouvel invité, Claude Bolli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, responsable scientifique du Musée national du sport à Nice et frère de Basile et Roger Bolli. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation malgré la tragédie survenue à Nice où vous êtes actuellement. Claude Bolli, pendant les 20 premières années du professionnalisme instauré en 1932, les joueurs africains, enfin d'Afrique de l'Ouest, hein, sont absents des effectifs des clubs d'élite. Ils vont progressivement remplacer ceux d'Afrique du Nord à partir des années 60. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça?
Mais ça s'explique que... Bon, déjà, je tenais à vous remercier pour ce moment et passer un petit bonjour à mon ami Paul et les autres invités.
Salut, Claude.
Pour revenir à cette longue histoire de l'entrée des footballeurs nord-africains dans les championnats de France, il faut savoir effectivement qu'ils ont remplacé les joueurs d'origine maghrébine et les années 50. La moitié des années 50 et des années 60 ont été des moments où on a assisté à une entrée, je dirais pas en force, mais une entrée remarquable des footballeurs africains dans le championnat de France. Et je pense notamment à des joueurs des joueurs d'origine ivoirienne. Je pense à Jean Tokwa, qui était aux portes de l'équipe de France des années 50, qui a failli même pu jouer la Coupe du Monde 58. Il y a d'autres joueurs d'origine ivoirienne, Joe Blaziri, et plus tard, comme l'a dit tout à l'heure Roger Mila, des joueurs comme Abo Solo, Jean-Pierre Tocoto, François Mpélé, plus tard, ont vraiment démontrer toutes les qualités des footballeurs africains.
Bien sûr. Franck Simon, est-ce que l'année 58, qui est considérée comme un tournant, puisque c'est le départ rapide des meilleurs joueurs algériens du championnat de France, qui partent, à l'image de Rachid Mekloufi ou de tels joueurs, qui partent rejoindre l'équipe du FLN, est-ce que ça, c'est un tournant et ça permet aux joueurs d'Afrique de l'Ouest de venir en France ou pas?
C'est un tournant à la fois pour les joueurs effectivement d'Afrique subsaharienne, mais c'est un tournant aussi pour je dirais par rapport aux indépendances, parce que et même pour l'équipe de France, parce que il y a énormément de joueurs d'origine algérienne qui portaient le maillot ou devaient le porter. Quelqu'un comme l'ancien gardien de but aujourd'hui décédé Boubaker a été international. Il y avait tant de joueurs qui auraient pu renforcer l'équipe de France, ils ont préféré participer au combat de la lutte pour l'indépendance, cette guerre d'indépendance, et ils ont fait des tournées exceptionnelles et ils ont porté quelque part le message non seulement de l'Algérie mais aussi tous les autres peuples d'Afrique et du monde, et ça a été peut-être que quelque part ça a été une, j'allais dire bénédiction, c'est pas le mot exact, mais ça a permis effectivement à d'autres joueurs de venir, mais ils se sont aussi côtoyés, hein, les Algériens, les Nord-Africains et puis les joueurs d'Afrique subsaharienne, ils se sont énormément côtoyés. Regardez à Saint-Étienne, comment ça s'est passé. Il a fallu quand même, il y avait Mekloufi, mais Mekloufi a accueilli tant de générations de joueurs. Donc il y a eu ce contact effectivement entre les Nord-Africains et puis tous les autres, et qui a bénéficié en fait quelque part à chacun, puisque comment ils ont, ceux qui étaient présents ont permis à ceux qui arrivaient, eh bien, de s'acclimater, de les aider, de les conseiller. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas forcément autant de joueurs. La réglementation était différente d'aujourd'hui. Donc, c'était bien d'avoir des grands frères, quelle que soit leur origine, qui soient là pour les conseiller et leur éviter de tomber dans certains pièges du professionnalisme à la française.
Alors, il y a un joueur qui a profondément marqué les esprits. C'est Njolea, hein, votre journal France Football, titré en septembre 54, Njolea, le diable noir. Est-ce qu'il a laissé un grand souvenir au Cameroun, J. Rémy Ngono? Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui, Njolea?
On ne parle pas de lui au Cameroun, mais si aujourd'hui on devrait parler plutôt des Noirs dans l'équipe de France et même dans le championnat de France, je crois que c'est d'abord Njolea. Parce que quand Njolea quitte le Cameroun, c'est en 1951 avec son brevet. Il vient uniquement pour faire des études. Sauf que, arrivé à Rouen, non loin de Lyon, il va jouer un petit match amical. Comme ça, il va planter 11 buts sur les 12. Et c'est là où totalement la nouvelle arrive au niveau de Saint-Étienne, où on va faire appel à lui, on va superviser, on va le recruter. Et bien évidemment, il va retrouver Rachid, avec lequel il va très bien s'entendre. De toutes les façons, il va beaucoup briller à Saint-Étienne tout en faisant ses études. Donc quand il obtient quand même déjà, quand il finit ses études à Saint-Étienne, puisqu'il fait le droit, et il s'en va là après avoir marqué quand même 70 buts. Il faut quand même se dire que c'est avec son leadership, c'est avec ça que Saint-Étienne réussit à remporter pour la première fois le championnat de France en 1957. Et qui est-ce qu'on voit? C'est un Noir qui est le porte-flambeau de cette victoire-là. Et par la suite, après avoir quand même marqué les 70 buts en 163 matchs, il est obligé d'aller au niveau de l'université à Lyon parce qu'il ne peut pas poursuivre les études à Rouen. Et quand il arrive à Lyon, il est encore recruté à Lyon, où il va d'ailleurs obtenir une licence en droit public. Et là, au niveau de Lyon, il brille toujours. Et là, comme le gars, lui, dans sa tête, il est venu pour faire la diplomatie, il est venu pour faire des études, il revient à Paris. Donc, quand il arrive à Paris, même scénario, on va le recruter au Racing Club de Paris, où il va jouer quelques matchs. Mais malheureusement, pendant qu'il est à Paris, il doit faire ses études ou son stage au niveau de Rome. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il sera obligé d'abandonner un peu le football. Mais néanmoins, quand vous me demandez est-ce qu'il a laissé un souvenir au niveau du Cameroun, non. Il a voulu laisser un souvenir. Mais au Cameroun, quand il est arrivé en 1987, après avoir été par exemple diplomate ou bien conseiller de Diallo Télé, le secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine, il a soumis le projet du professionnalisme, que ce soit au Cameroun ou à tous les chefs d'État, aucun ne l'a soutenu.
Claude Bolli, est-ce que des joueurs justement comme Eugène Njolea ou l'Ivoirien Jean Tokpa ont permis de changer le regard qu'avaient les Occidentaux sur ces joueurs africains, jugés un peu exotiques. Est-ce que, en plantant des buts, comme dit J-Point, ils ont fait taire les critiques et le scepticisme?
Effectivement, mais je pense que pour sortir un peu de notre cadre franco-français, il faut savoir qu'il y a d'autres grands footballeurs d'origine africaine qui ont marqué le football européen. Je pense notamment à des joueurs portugais dont certainement parlera Paul tout à l'heure, Eusebio, Colonna, qui ont été également des pionniers dans cette idée que le footballeur africain pouvait être à la fois un grand footballeur et surtout quelqu'un sur qui on pouvait compter sur une saison entière, pas uniquement sur la saison dite ensoleillée. Et bien sûr, les footballeurs d'origine d'Afrique francophone, je pense que le moment clé de cette nouvelle représentation, une nouvelle perception du football africain vient du Salif Keïta. Je pense qu'avec Salif Keïta, le regard a complètement changé. Les journalistes se sont rendus compte que qu'un footballeur venu d'Afrique qui avait une très faible expérience du football européen pouvait s'épanouir et surtout pouvait briller, pouvait marquer, pouvait être l'égal d'un grand buteur comme Skoblar. Il pouvait être également aussi bon à la fois à Saint-Etienne et à l'Olympique de Marseille. Et peut-être le deuxième grand moment de ces représentations qui ont changé, du regard qui a changé, je pense à Roger Milla et plus tard des gens comme George Weah. Donc à chaque fois, j'ai presque envie de dire, à chaque décennie, il y a eu des joueurs, des pionniers, il y a eu des joueurs clés qui ont profondément marqué les esprits.
Bien sûr, vous parlez de Salif Keïta, évidemment, il a marqué des générations, on l'a comparé à Pelé et à Eusebio, d'autres joueurs noirs. Franck Simon voulait rajouter un petit mot.
Oui, vous savez qu'en 1970, l'hebdomadaire pour lequel je travaille, France Football, crée le ballon d'or africain. Il y avait déjà un ballon d'or européen qui existait et il faudra encore plusieurs décennies avant qu'il y ait une fusion et que le ballon d'or devienne mondial. Mais effectivement, c'est quelque part en créant ce trophée avec également RFI, parce que RFI a été associé à France Football dans ces années-là. Eh bien, ça a permis justement de mettre en valeur non seulement les joueurs africains du terroir, ceux qui évoluent dans leur propre championnat, dans les compétitions, et puis après quelques années, eh bien de valoriser aussi ceux qui évoluaient en Europe. Ils étaient à l'époque peu nombreux et essentiellement présents dans le championnat de France. Et je crois que ça a aidé aussi à les populariser. Ça a aidé aussi à faire connaître un certain nombre de joueurs de la région de langue portugaise, lusophone, mais aussi les Nigérians, les Ghanéens, etc. Et puis on arrive à un moment donné, on va arriver à un moment où finalement, bien tous les grands championnats d'Europe occidentale, vont s'intéresser, ils vont aller chercher des joueurs sur le continent africain, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, à un moment donné, elle joue aussi ce rôle très important. Elle est télévisée enfin et elle passe en Europe.
Merci infiniment, Claude Bolli, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes historien, responsable scientifique du Musée national du sport à Nice. Allez, un solo gol penama.
Diallo, wana wande wingu na bulu, iwale wale tateko. Diallo, wana wande we sangwa miyinga, umende no pondo koro koro. Singing, they're not
matoi una mungo ndenge obibabo manyaka malambo mungulu kelambi lagwa satan one peg in he bibolo anyango monatan nato sanda anyata nango sanda.
Joko Joko de Richard Bonnat dans Radio Foot International version estivale avec l'historien Paul Ditchy aujourd'hui et nos consultants du jour Franck Simon et J. Rémy Ngono. Alors avant cette petite pause musicale, on parlait du rôle et de l'importance de Salif Keïta. Paul Ditchy, est-ce que vous partagez ce sentiment? Quel est le rôle qu'a joué Salif Keïta dans le championnat français?
Alors, il a joué d'abord un rôle important parce que il faut rappeler que dans les années 60, le nombre de joueurs étrangers était limité. Or, tous ces joueurs africains, finalement, n'étaient plus considérés comme français. D'autant que leur fédération voulait les retenir, absolument, parce que l'important pour les fédérations africaines, c'est d'abord s'imposer sur la scène africaine en gagnant la Coupe d'Afrique des Nations, pour les clubs, la Coupe des Clubs Champions. Donc, Salif Keïta, on connaît son histoire, il est parti, il s'est échappé pratiquement de son pays, il est arrivé en avion.
Dans des conditions rocambolesques à Orly.
Rocambolesques, il a demandé un taxi pour Saint-Étienne. De l'amener à Saint-Étienne. Donc, il n'y avait pas du tout toutes ces filières, hein, même si c'est quand même les filières de la France-Afrique qui finalement l'ont fait venir, mais il n'y avait pas ces filières qui existent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un cas très particulier. Alors, il me semble que Keïta est important parce que c'est quelqu'un aussi qui a affirmé le fait qu'il était africain et qu'il ne voulait pas être assimilé, c'est-à-dire prendre la nationalité française pour être considéré comme un joueur français et libérer une place, notamment à Marseille, à d'autres joueurs comme Skoblar, Magnusson, qui étaient des Européens. Donc, il a lié à la fois, finalement, ses qualités techniques, physiques, hein, et c'est lui qui a notamment contribué à éliminer le Bayern de Munich, hein, en Coupe des Clubs Champions, chose que les Verts, ensuite, n'ont pas réussi à faire. Et puis, surtout, il s'est affirmé comme un Africain, et en réclamant l'égalité de statut avec les autres joueurs étrangers, à un moment où la législation sur les joueurs étrangers était très restrictive.
Franck Simon, on se rend compte que les attaquants africains étaient particulièrement demandés, recrutés par les clubs français. Il y a un joueur comme Laurent Pokou notamment qui vous a marqué, dont vous vouliez parler.
Bah ouais, parce qu'on a évoqué tout à l'heure d'autres grands noms du football ivoirien, effectivement des années 50-60, mais pour le coup Pokou, avec ce qu'il a pu apporter aux éléphants en Coupe d'Afrique des Nations, l'empereur Baoulé, le grand attaquant de la SEC d'Abidjan, a fait une belle carrière, notamment au Stade Rennais. Je crois qu'en France ça s'est terminé à la fin des années 70 du côté de Nancy, et ensuite il est reparti en Côte d'Ivoire. Ça a été un joueur et un grand attaquant, contemporain d'ailleurs du Congolais François Mpelé. Voilà, ce sont des joueurs qui étaient des machines à marquer, qui étaient des joueurs. Quand je dis machine, c'est je veux pas que ça soit pris dans un sens péjoratif, mais voilà, c'était des joueurs extrêmement doués techniquement. Et puis ben ils étaient aussi très efficaces, et ils ont contribué justement à ce qu'on s'intéresse un petit peu plus et à leur football, à leur équipe nationale. Et puis ils ont ouvert la porte, parce que ils étaient des pionniers malgré tout pour tous les autres, comme certains Camerounais avaient pu le faire avant. Donc, je pense au père de Yannick Noah, hein. Son père a été aussi joueur dans les années 50-60 du côté de Sedan. Donc voilà, ce sont des garçons qui ont ouvert les portes à tout un tas d'autres joueurs et venant de régions méconnues jusqu'alors, bien des réseaux dont on parlait à l'instant, parce que on s'intéressait pas du tout aux anglophones ou alors très très peu. Et quand on regarde un petit peu et qu'on fouille un peu, on s'aperçoit que ben ça s'est passé ailleurs, chez nos voisins, notamment en Belgique et puis bien sûr en Grande-Bretagne. On est allé chercher des joueurs de la zone anglophone.
Paul Ditchy, est-ce que les bonnes prestations des sélections nationales pendant les Coupes du Monde, je pense à l'Algérie en 82, au Cameroun en 90, est-ce que ces bonnes prestations ont accéléré le processus d'exode des meilleurs joueurs, des meilleurs éléments du football africain?
Oui, certainement, parce qu'il y a quand même eu un traumatisme, c'est celui du Zaïre en 74, hein, qui a pris trois défaites, donc un célèbre 9-0 contre la Yougoslavie, et qui, pour certains, a pu renforcer des préjugés, finalement, sur les Africains qui n'étaient pas sérieux, etc. Et puis, les excellents résultats, alors Cameroun a été éliminé, mais en tenant tête quand même, notamment à l'Italie, l'Algérie a battu la République fédérale d'Allemagne au premier tour en 82, donc ça a été un premier éveil, en quelque sorte, alors qui est renforcé par le fait que c'est le moment où il y a une transformation dans le football africain, où la Coupe d'Afrique des Nations va être ouverte aux professionnels. Et donc, les joueurs qui opèrent en Europe, finalement, pourront continuer à jouer pour leur sélection nationale. Alors que c'était quelque chose de beaucoup plus difficile, voire impossible, auparavant. Donc, carrière européenne et carrière en sélection sont permises. Et puis, surtout, à mon avis, c'est aussi la victoire du Cameroun contre le champion du monde argentin dans le match d'ouverture de la Coupe du Monde en 90. Italie en 90. Hein, ce fameux,
1-0. Hein. Hein,
ce but formidable de François Mbeek, hein, une tête tout à fait extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui a marqué profondément, hein, d'autant qu'auparavant, les Argentins avaient pris un peu les Camerounais hein, de haut. Et donc, ça a finalement confirmé 82. Et puis, c'est le moment aussi où le football, quand même, s'internationalise, où on regarde ce que font les autres, on s'aperçoit qu'il y a des clubs en France qui ont beaucoup de joueurs africains, il y a des clubs en Belgique qui font la même chose. Et donc, à ce partir de là, eh bien, on va chercher des talents. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'en 90, il y a cette victoire. Et bon, j'habitais en Italie à l'époque, et le Torino avait recruté des jeunes joueurs ghanéens. C'était pratiquement le premier club italien à le faire. Et donc, ça a été le coup d'envoi de cet intérêt pour ces joueurs. En raison de leur performance, aussi pour des raisons économiques, parce qu'ils semblaient coûter moins cher que d'autres joueurs sud-américains notamment.
Ouais, pour préciser ce que disait Paul, c'est en 91 en fait hein, que le Torino recrute des joueurs ghanéens de 16 ans. C'est le début du foot business, c'est le début surtout de la création des compétitions de jeunes par la FIFA. Et c'est une brèche dans laquelle vont s'engouffrer tous les clubs européens. Ils vont chercher des joueurs africains bien dans toutes ces compétitions U17, U20.
Alors, on a beaucoup parlé des footballeurs qui les plus connus, hein, ceux qui ont réussi. Mais évidemment, aujourd'hui, comme dans les années 60, pour certains, le foot est un mirage avec une réussite. Pas forcément au rendez-vous, il était quand même important de le rappeler. Et vous opinez du chef, J. Rémy Ngono. Alors, je vous pose la question, d'où viennent les expressions parfois cocasses utilisées dans le football? Pour le savoir, voici le terme technique expliqué par Jean-Philippe Bouchard, journaliste à L'Équipe et auteur des mots du sport.
Vive la multiplication de l'expression humaine.
Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens.
Mais les termes sont inadéquats.
Marquer à la culotte. C'est pratiquer un marquage individuel très serré. Et ça date quasiment des débuts du foot, au 19e siècle. L'expression est plus récente, mais pas tant que ça. Par exemple, pendant la Coupe du Monde 1934, en Italie, le français Georges Verriest est chargé par son sélectionneur, l'anglais Kimpton, de marquer le grand joueur autrichien Matthias Sindelar. Et la légende veut que Kimpton ait défini son poste à Verriest de cette façon « Si Sindelar va aux toilettes, tu y vas aussi ». Plus tard, certaines équipes vont pratiquer systématiquement le marquage individuel. Il y a eu par exemple la JOCR de Giroud, célèbre pour son immuable 4-3-3 et son marquage à la culotte qui lui a permis de réussir le doublé Coupe-Championnat en 1996. Mais bon, c'est un peu une exception dans le foot et pratiquement tous les entraîneurs de haut niveau prônent depuis longtemps la défense en zone. Ce qui est amusant de noter, c'est que l'expression est aujourd'hui passée dans le langage courant. On surprend ainsi les commentateurs politiques à parler du marquage à la culotte de François Hollande sur Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, ça veut simplement dire « surveiller », mais on voit bien comment le langage du sport se glisse désormais partout.
Paul Dicci, en tant qu'historien, on imagine que vous connaissiez la signification de cette expression. Le langage du sport est repris partout, c'est ce que vous pensez également ?
Oui, alors c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez nouveau en France, enfin qui date, je pense, de 98 hein, et de l'importance de la victoire en Coupe du Monde, qui fait que tout d'un coup, des gens qui ne s'intéressaient pas au football ont commencé à s'y intéresser. Dans les médias aussi, il y a une sorte d'inflation médiatique hein, avec le football. Vous avez des stations comme RMC Info qui sont nées à ce moment-là. Vous avez Internet. Donc, tout ce vocabulaire finalement sportif qui était déjà très employé en Italie justement auparavant, hein, Fare Autogol, par exemple, marquer un but contre son camp, c'était une expression qui était très employée lorsqu'on évoquait une erreur d'un journaliste ou d'un homme politique. Bon, ça apparaît en France, et il me semble que c'est lié à cette victoire et au fait que finalement, enfin, le football devient un sport populaire, d'une part, et puis surtout qui intéresse au-delà des spécialistes de ce jeu, et aussi l'apparition de nouvelles générations d'hommes politiques qui aiment le football et qui ne craignent plus de le dire.
L'équipe improbable, chaque jour, je demanderai à l'un des consultants de cette émission de nous citer son équipe improbable, celle qui a gagné un match quand on ne l'attendait pas, celle qui a gagné un championnat que l'on n'attendait pas, celle qui a gagné un euro, pensons au Danemark par exemple en 92, alors que les joueurs étaient déjà en vacances. Et c'est vous qui commencez, Franck Simon, quelle est votre équipe improbable ?
Mais Igor, j'ai envie de vous parler du KSK Beveren, hein, chez nos voisins belges. Alors en 79, cette équipe du Pays de Vasse remporte le championnat belge à la surprise générale, et devant les ténors, hein, le Standard de Liège, le FC Bruges et Anderlecht. La surprise, en fait, elle vient du fait que, hormis quelques Allemands qu'ils avaient recrutés, c'était des joueurs amateurs, ces joueurs. Ils étaient pompiers, ils étaient employés de banque, etc. Parmi eux, il y avait un joueur très important, le gardien de but, Jean-Marie Pfaff, devenu une vedette internationale peu de temps après. Il a été désigné le meilleur joueur belge en 79. Alors, eh bien, tous ces garçons-là, quelques mois plus tard, ils font la Coupe des clubs champions en Europe. Mais bon, ils n'iront pas très loin. Ils sont sortis dès le premier tour par le Servette de Genève. Ça a vraiment été une équipe improbable, mais héroïque, et puis un parcours qui est resté dans l'histoire du foot européen.
Elle vous a fait rêver, cette équipe ?
Oui, parce que c'était très original, et puis il y a eu d'autres clubs dans la foulée de Beveren qui ont fait un petit peu ce football-là. En France, on a eu longtemps le FC Guignon, les footballeurs ouvriers, entre guillemets, qui avaient refusé notamment le statut professionnel, alors qu'ils avaient gagné la montée la même année, d'ailleurs, je crois, en 79.
S'il vous plaît, vous quittez la pelouse ! Vous pouvez partir d'ici, s'il vous plaît !
Eh ben, nous sommes obligés de quitter la pelouse, c'est la fin de cette émission. Merci Paul Dicci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de Histoire du football aux éditions Perrin. Un grand merci aux équipes techniques de France Bleu Besançon qui assuraient la liaison avec nous. Demain, nous parlerons des joueurs qui nous font rêver, les dribbleurs, avec Florence Ponce et Guillaume Plouquin. On vous souhaite une excellente journée, à demain. 7 milliards